27. Réveil moderne. Partout où la parole avait été fidèlement prêchée, les résultats qui suivaient attestaient son origine divine. L'Esprit de Dieu accompagnait le message de ses serviteurs, et la parole était prêchée avec puissance. Les pécheurs sentaient leur conscience se réveiller. La lumière qui éclaire tout humain et qui venait dans le monde illuminait le tréfonds de leur âme, et ce qui avait été caché dans les ténèbres se trouvait dévoilé. Une profonde certitude s'emparait de leur esprit et de leur cœur. Ils étaient convaincus, en matière de péché, de justice et de jugement. Ils étaient saisis par un vif sentiment de la justice de Dieu et terrifiés à l'idée de devoir paraître, avec leur culpabilité et leur souillure, devant celui qui sonde tous les cœurs. Dans leur angoisse, ils s'écriaient « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Lorsque la croix du calvaire, sacrifice infini consenti pour les péchés des hommes, se révélait à eux, ils prenaient conscience que seuls les mérites du Christ pouvaient expier leurs transgressions et les réconcilier avec Dieu. Avec foi et humilité, ils acceptaient l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Par le sang de Jésus, ils trouvaient l'expiation des péchés commis auparavant. Ces croyants produisaient un fruit digne du changement radical, ou, dans d'autres versions bibliques, de la repentance. Ils croyaient et étaient baptisés, puis se levaient pour marcher sous le régime nouveau de la vie. Devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, ils ne se conformaient plus aux désirs d'autrefois, mais, par la foi au Fils de Dieu, suivaient ses traces pour refléter son caractère et se purifient comme lui-même est pur. Ce qu'ils haïssaient auparavant, maintenant ils l'aimaient, et ce qu'ils aimaient, maintenant ils le haïssaient. Les orgueilleux et les présomptueux devenaient doux et humbles de cœur. Ceux qui étaient vains et hautains se montraient sérieux et modestes. Les profanes devenaient respectueux, les ivrognes sobres et les débauchés purs. Ils abandonnaient les vaines modes du monde. Ces chrétiens se mettaient à rechercher non pas la parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce réveil amenait les croyants à sonder leur cœur en toute humilité. Il était caractérisé par des appels solennels et fervents adressés aux pécheurs, par des hommes animés d'une compassion ardente pour ceux que le sang du Christ avait rachetés. Hommes et femmes priaient et luttaient avec Dieu pour obtenir le salut des âmes. Les fruits de ce réveil se remarquaient chez des croyants qui ne reculaient pas devant l'abnégation et le sacrifice, mais se réjouissaient d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom du Christ. On constatait une transformation dans la vie de ceux qui avaient professé le nom de Jésus. Leur influence se faisait sentir au sein de la communauté. Ils assemblaient avec Christ et semaient selon l'Esprit, pour récolter la vie éternelle. On pouvait dire d'eux « Votre tristesse vous a porté à un changement radical » ou, dans d'autres versions bibliques, à la repentance. En effet, la tristesse selon Dieu produit un changement radical, ou une repentance, qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voyez donc ce que cette même tristesse selon Dieu a produit en vous. Quel empressement! Bien plus, quelle défense, quelle indignation, quelle crainte, quelle vive affection, quelle passion jalouse, quelle juste punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Tel est le résultat de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. On ne peut certifier qu'une repentance est véritable si elle ne produit pas une réforme dans la vie. Si le méchant rend le gage, restitue l'objet de ses spoliations, confesse ses péchés et aime Dieu et son prochain, il pourra être certain qu'il a trouvé la paix avec Dieu. Tels étaient les effets des périodes de réveil religieux des années passées. En les jugeant par leurs fruits, on pouvait savoir que ces réveils avaient la bénédiction de Dieu pour le salut des hommes et le relèvement de l'humanité. Mais de nombreux réveils des temps modernes présentent un contraste frappant avec les manifestations de la grâce divine qui, autrefois, accompagnaient les travaux des serviteurs de Dieu. Il est vrai qu'ils suscitent un profond intérêt, que de nombreuses personnes professent être converties et se joignent aux églises. Cependant, les résultats ne nous portent pas à croire qu'il y ait eu une augmentation correspondante de la véritable vie spirituelle. La lumière qui a brillé pour un temps s'éteint bientôt, laissant des ténèbres encore plus épaisses qu'auparavant.
Les réveils populaires sont trop souvent suscités en faisant appel à l'imagination,
en excitant les émotions et en répondant au désir de trouver ce qui est nouveau et étonnant. Les convertis gagnés de cette manière sont peu désireux d'écouter la vérité biblique et manifestent peu d'intérêt pour le témoignage des prophètes et des apôtres. À moins qu'un service religieux ne comporte quelque chose de sensationnel, il est sans attrait pour eux. Un message qui fait appel à la raison ne suscite aucun écho de leur part s'il ne contient rien d'excitant. Ils ne tiennent pas compte des clairs avertissements de la parole de Dieu qui pourtant concernent directement leurs intérêts éternels. Pour toute âme réellement convertie, les relations avec Dieu et avec les valeurs éternelles deviennent le grand centre de la vie. Mais où trouve-t-on, dans les églises populaires d'aujourd'hui, cet esprit de consécration à Dieu ? Les convertis ne se débarrassent ni de leur orgueil, ni de leur amour du monde. Ils ne sont pas plus disposés à renoncer à eux-mêmes, à se charger de la croix et à suivre le doux et humble Jésus qu'ils ne l'étaient avant leur conversion. La religion est devenue un sujet de plaisanterie pour les incrédules et les sceptiques parce que beaucoup de personnes qui s'en réclament sont ignorantes de ses principes. La puissance de la piété a presque entièrement disparu de nombreuses églises. Les pique-niques, les spectacles théâtraux, les kermesses, les belles maisons, l'apparence extérieure ont banni Dieu de la pensée des hommes. Terre, possession matérielle et occupation de ce monde remplissent l'esprit et on pense à peine aux valeurs d'intérêt éternel. Malgré le déclin généralisé de la foi et de la piété, il y a dans ces églises de véritables disciples du Christ. Avant que les jugements de Dieu ne s'abattent finalement sur la terre, il y aura, au sein du peuple du Seigneur, un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis l'époque des apôtres. L'Esprit et la puissance de Dieu se répandront sur ses enfants. À cette époque, nombre d'entre eux se sépareront des églises dans lesquelles l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup, aussi bien prédicateurs que gens du peuple, accepteront avec joie les grandes vérités qui Dieu a fait proclamer pour préparer un peuple pour le second avènement du Seigneur. L'ennemi des âmes désire entraver cette œuvre, et, avant que ce mouvement se produise, il s'efforcera de l'empêcher en introduisant une contrefaçon. Dans les communautés qu'il peut amener sous sa puissance de séduction, il fera croire que la bénédiction spéciale de Dieu est répandue. On observera ce qui semblera être un grand intérêt religieux. Des foules de gens se réjouiront, disant que Dieu agit merveilleusement en leur faveur, alors que cette œuvre sera celle d'un autre esprit. Sous le manteau de la religion, Satan cherchera à étendre son influence sur le monde chrétien. Dans de nombreux réveils qui se sont produits au cours des siècles passés, les mêmes influences se sont manifestées, à des degrés divers, et se manifesteront dans les mouvements plus importants à venir. Ces réveils sont caractérisés par une excitation émotionnelle, un mélange du vrai et du faux qui sont bien conçus pour égarer les âmes. Cependant, personne n'a besoin d'être trompé. À la lumière de la parole de Dieu, il n'est pas difficile de déterminer la nature de ces mouvements. Chaque fois que les hommes négligent le témoignage de la Bible, se détournent des vérités évidentes qui éprouvent l'âme et exigent l'abnégation et la renonciation au monde, nous pouvons être certains que ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui est accordée. En utilisant la règle donnée par le Christ lui-même, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, il est clair que ces mouvements ne sont pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Dieu s'est révélé aux hommes dans les vérités de sa parole, et, pour tous ceux qui les acceptent, elle constitue un bouclier contre les tromperies de Satan. C'est la négligence de ces vérités qui a ouvert la porte aux maux qui sont aujourd'hui si répandus dans le monde religieux. On a perdu de vue, dans une grande mesure, la nature et l'importance de la loi de Dieu. Une fausse conception du caractère, de la perpétuité et de l'obligation de la loi divine a produit des erreurs sur la conversion et la sanctification, et un abaissement du niveau de la piété dans l'Église. Tel est le secret de l'absence de l'Esprit et de la puissance de Dieu dans les réveils de notre époque. Il y a dans les diverses dénominations des hommes éminents par leur spiritualité qui reconnaissent et déplorent ce fait. Le professeur Edwards A. Park, en décrivant les périls d'aujourd'hui dans le monde religieux, déclare avec justesse « Une source de danger est la négligence de la part des prédicateurs de mettre en valeur la loi divine ». Autrefois, la chair était l'écho de la voix de la conscience, Nos prédicateurs les plus illustres conféraient une merveilleuse majesté à leur discours en suivant l'exemple du maître et en mettant en relief la loi, ses préceptes et ses menaces. Ils répétaient ces deux grandes maximes. La loi est un reflet des perfections divines et celui qui n'aime pas la loi n'aime pas l'évangile, car la loi, aussi bien que l'évangile, est un miroir réfléchissant le véritable caractère de Dieu. Ce péril entraîne un autre, celui de sous-estimer la nature odieuse du péché, son étendue et sa gravité. La justice du commandement est directement proportionnelle à l'erreur de la désobéissance. Au danger déjà mentionné est associé celui de sous-estimer la justice de Dieu. La tendance des prédicateurs modernes est de séparer cette justice de sa bienveillance et de l'abaisser au niveau d'un sentiment au lieu de l'exalter à la hauteur d'un principe. Ce nouveau prisme théologique brise ce que Dieu a uni. La loi divine est-elle bonne ou mauvaise? Elle est bonne, n'est-ce pas? La justice est donc bonne, car c'est la disposition à mettre la loi en pratique. De cette habitude de sous-estimer la valeur de la loi et de la justice divine, et suite à l'étendue et à la gravité de la désobéissance des hommes, on glisse facilement dans le travers de dépréciation de la valeur de la grâce, qui a fourni un moyen d'expiation du péché. C'est ainsi que l'Évangile perd de sa valeur et de son importance dans l'esprit des hommes, qui seront bientôt pratiquement prêts à rejeter la Bible elle-même. De nombreux professeurs de religion affirment que le Christ, par sa mort, a aboli la loi et que les hommes sont désormais libres de ses obligations. Certains la représentent comme un joug pénible et, en contraste avec la servitude de la loi, exaltent la liberté dont jouissent ceux qui acceptent l'Évangile. Mais ce n'est pas ainsi que les prophètes et les apôtres considéraient la sainte loi de Dieu. David disait « Je marcherai au large, car je recherche tes directives ». L'apôtre Jacques, écrivant après la mort du Christ, appelle le décalogue la loi royale et la loi parfaite, la loi de la liberté. L'apôtre Jean, un demi-siècle après la crucifixion, prononce une bénédiction sur « ceux qui lavent leurs robes » ou dans d'autres versions bibliques, « qui pratiquent ses commandements » pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes dans la ville. La prétention que le Christ a aboli par sa mort la loi de son Père est sans fondement. S'il avait été possible de changer ou de supprimer cette loi, le Christ n'aurait pas eu besoin de mourir pour sauver l'homme des conséquences du péché. La mort du Christ, bien loin d'abolir la loi, prouve que celle-ci est immuable. Le Fils de Dieu est venu pour « rendre la loi grande et magnifique ». Il a dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ». Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera. Il déclare de lui-même « Je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles ». La loi de Dieu, par sa nature même, est immuable. C'est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. Dieu est amour et sa loi est amour. Ces deux grands principes sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le caractère de Dieu est justice et vérité. Telle est aussi la nature de sa loi. Le psalmiste déclare « Ta loi est vérité » et « Tous tes commandements sont justice ». De son côté, l'apôtre Paul nous dit « La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon ». Une telle loi, étant l'expression de l'esprit et de la volonté de Dieu, doit être aussi éternelle que son auteur. C'est l'œuvre de la conversion et de la sanctification de réconcilier les hommes avec Dieu en les mettant en harmonie avec les principes de sa loi. Au commencement, l'homme fut créé à l'image de Dieu. Il était en parfaite harmonie avec la nature et avec la loi de Dieu. Les principes de la justice étaient gravés dans son cœur. Mais le péché le sépara de son Créateur. Il cessa de refléter l'image divine. Son cœur entra en guerre contre les principes de la loi de Dieu. La chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à sa loi, elle en est même incapable. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Par les mérites du Christ, l'harmonie avec son Créateur peut être rétablie. Son cœur est alors régénéré par la grâce divine. Il reçoit une vie nouvelle qui vient d'en haut. Ce changement, c'est la nouvelle naissance, sans laquelle, nous dit Jésus, nul ne peut voir le règne de Dieu. la première étape de la réconciliation avec Dieu est la conviction du péché. C'est le péché qui est le mal, ou, dans d'autres versions bibliques, le péché est la transgression de la loi. Ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Pour pouvoir percevoir sa culpabilité, le pécheur doit éprouver son caractère par la grande norme de la justice divine. C'est un miroir qui montre la perfection d'un caractère juste et lui permet de discerner les défauts du sien. La loi révèle à l'homme ses péchés, mais ne lui offre aucun remède. Tout en promettant la vie à celui qui obéit, elle déclare que la mort est réservée aux transgresseurs. Seul l'évangile du Christ peut le libérer de la condamnation ou de la souillure du péché. Par la repentance envers le Dieu dont il a transgressé la loi, ainsi que par la foi en Christ et en son sacrifice expiatoire, il obtient la rémission des péchés commis auparavant et peut avoir part à la nature divine. Il est devenu enfant de Dieu, ayant reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Est-il maintenant libre de transgresser la loi de Dieu? Paul répond « Au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi. Jamais de la vie. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui ?» Jean déclare « L'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau. » La nouvelle naissance met le cœur de l'homme en harmonie avec Dieu et, en même temps, avec sa loi. Lorsque ce profond changement a eu lieu dans le cœur du pécheur, celui-ci est passé de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la transgression et de la rébellion à l'obéissance et à la loyauté. L'ancienne vie d'aliénation loin de Dieu est terminée. La vie nouvelle de réconciliation, de foi et d'amour a commencé. À ce moment, la justice requise par la loi est accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Le langage de l'âme est alors « Combien j'aime ta loi, je la médite sans cesse. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie. » Sans la loi, les hommes n'ont aucune conception exacte de la pureté et de la sainteté de Dieu, ni de leur propre culpabilité et souillure. Ils n'ont aucune véritable conviction du péché et ne ressentent aucun besoin de repentance. Ne percevant pas leur état de perdition comme transgresseurs de la loi de Dieu, ils ne se rendent pas compte de la nécessité du sang expiatoire du Christ. Ils acceptent l'espérance du salut sans qu'il y ait eu de changement radical du cœur et de réforme de la vie. C'est ainsi qu'abondent les conversions superficielles et que des foules se joignent à l'Église sans s'être d'abord unies au Christ. Des théories erronées sur la sanctification, provenant de la négligence ou du rejet de la loi divine, jouent aussi un rôle important dans les mouvements religieux d'aujourd'hui. Ces théories sont à la fois doctrinalement fausses et dangereuses par leurs conséquences pratiques. Le fait qu'elles soient généralement acceptées avec tant d'empressement rend doublement essentielle une compréhension claire et appropriée de l'enseignement des Écritures à ce sujet. La véritable sanctification ou consécration est une doctrine biblique. L'apôtre Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, déclare « La volonté de Dieu, c'est votre consécration » ou, dans d'autres versions bibliques, « sanctification ». Et il fait cette prière « Que le Dieu de paix vous consacre » ou, dans d'autres versions bibliques, « sanctifie » lui-même tout entier. La Bible enseigne clairement ce qu'est la sanctification ou consécration et comment y parvenir. Le Sauveur a prié ainsi pour ses disciples. « Consacre-les » ou « sanctifie-les » par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Paul enseigne que les croyants doivent être consacrés ou sanctifiés par l'Esprit-Saint. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Jésus a dit à ses disciples « Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et le psalmiste dit « Ta loi est vérité. » La parole et l'Esprit de Dieu révèlent aux hommes les grands principes de la justice incarnés dans sa loi. Et puisque « le commandement est saint, juste et bon » 53, étant un reflet de la perfection divine, il s'ensuit qu'un caractère formé par l'obéissance à cette loi sera saint. Le Christ est l'exemple parfait d'un tel caractère. Il nous dit « J'ai gardé les commandements de mon Père, et je fais toujours ce qu'il agrée. Les disciples du Christ doivent devenir semblables à lui. Par la grâce de Dieu, ils doivent former un caractère conforme aux principes de sa sainte loi. Telle est la sanctification ou consécration selon la Bible. Cette œuvre ne peut s'accomplir que par la foi en Christ, par la puissance de l'Esprit de Dieu habitant dans le cœur. Paul exhorte ainsi les croyants. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Le chrétien ne peut manquer de ressentir les sollicitations du péché, mais il lui livre un combat constant. C'est ici que l'aide du Christ est nécessaire. La faiblesse humaine s'unit à la puissance divine et le cri de la foi est « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Les Écritures montrent clairement que l'œuvre de la sanctification ou consécration est progressive. Lorsque, par la conversion, le pécheur découvre la paix avec Dieu par le sang de l'expiation, la vie chrétienne ne fait que commencer. Il doit maintenant tendre vers l'accomplissement ou, dans d'autres versions bibliques, la perfection et croître à la mesure de la stature parfaite du Christ. L'apôtre Paul disait « Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Pierre nous présente les étapes par lesquelles nous devons atteindre la sanctification ou consécration biblique. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Ceux qui font l'expérience de la sanctification ou consécration biblique manifesteront un esprit d'humilité. Comme Moïse, ils ont eu la vision de la redoutable majesté de la sainteté, et ils perçoivent leur propre indignité, contrastant avec la pureté et la perfection absolue de celui qui est infini. Le prophète Daniel fut un exemple de la véritable sanctification ou consécration. Sa longue vie fut consacrée au noble service de son maître. Il fut appelé « bien-aimé du ciel ». Cependant, au lieu de se prétendre pur et saint, ce prophète honoré de Dieu s'identifia avec les pécheurs du peuple d'Israël en plaidant devant Dieu la cause de son peuple. « Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait pour la justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande compassion. Nous avons péché, nous avons agi en méchant. » Il déclare « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché d'Israël, mon peuple. » Lorsque, plus tard, le Fils de Dieu lui apparut pour lui donner des instructions, Daniel nous dit « Mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. » Lorsque Job entendit la voix du Seigneur, du milieu de la tempête, il s'exclama « Je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre. » C'est lorsqu'Ésaïe vit la gloire du Seigneur et entendit les chérubins répéter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées » qu'il s'écria « Quel malheur pour moi, je suis perdu !» Paul, après avoir été enlevé jusqu'au troisième ciel et avoir entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer, parle de lui-même comme « le moindre de tous les saints ». C'est Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, celui qui s'était penché tout contre la poitrine de Jésus, qui, lorsqu'il contempla sa gloire, nous dit « Je tombai à ses pieds, de l'ange, comme mort. » Il ne peut y avoir aucune exaltation de soi-même, aucune prétention orgueilleuse à être sans péché, de la part de ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire. Ils ont le sentiment que c'est leur péché qui a provoqué l'agonie du Fils de Dieu, lui a brisé le cœur, et cette pensée les amène à s'humilier eux-mêmes. Ce sont ceux qui vivent le plus près de Jésus, qui discernent le plus clairement la fragilité, le caractère pécheur de la nature humaine. Leur seul espoir réside dans les mérites du Sauveur crucifié et ressuscité. La sanctification qui se répand de plus en plus dans le monde religieux d'aujourd'hui porte en elle-même un esprit d'exaltation de soi-même et une indifférence envers la loi de Dieu qui révèle qu'elle est étrangère à la religion de la Bible. Ses partisans enseignent que la sanctification est une œuvre instantanée, par laquelle, par la foi seule, on atteint la sainteté parfaite. « Croyez seulement, disent-ils, et la bénédiction vous appartient. Aucun autre effort n'est exigé de celui qui reçoit cette sanctification. En même temps, ils rejettent l'autorité de la loi de Dieu, prétendant qu'on est dégagé de l'obligation de garder les commandements. Mais est-il possible aux hommes d'être saints, en harmonie avec la volonté et le caractère de Dieu, sans se mettre aussi en harmonie avec les principes qui sont une expression de sa nature et de sa volonté, et qui montrent ce qui lui est agréable? Le désir de trouver une religion facile, qui n'exige ni effort, ni abnégation, ni séparation des folies du monde, a fait de la doctrine de la foi seule une doctrine populaire. Mais que dit la parole de Dieu? L'apôtre Jacques déclare « Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié, et non pas seulement en vertu d'une foi. » Le témoignage de la parole de Dieu est opposé à cette doctrine séduisante de la foi sans les œuvres. Se réclamer de la faveur du ciel sans se soumettre aux conditions auxquelles la miséricorde doit être accordée, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. Car la véritable foi repose sur les promesses et les dispositions contenues dans les Écritures. Que personne ne se trompe soi-même en croyant qu'on peut parvenir à la sainteté tout en transgressant délibérément l'une des exigences divines. Commettre sciemment un péché, c'est faire taire le témoignage de l'esprit, et c'est séparer son âme de Dieu. C'est le péché qui est le mal, ou, dans d'autres versions bibliques, la transgression de la loi. Quiconque pêche, c'est-à-dire transgresse la loi, ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. L'apôtre Jean, qui, dans ses épîtres, insiste tellement sur l'amour, n'hésite pas à révéler le véritable caractère de ceux qui prétendent être sanctifiés tout en vivant dans la transgression de la loi de Dieu. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. Telle est la pierre de touche de la profession de foi de chacun. Nous ne pouvons reconnaître un homme comme saint sans le soumettre à la mesure de la seule norme de sainteté donnée par Dieu dans le ciel et sur la terre. Si les hommes ne ressentent pas l'importance de la loi morale, s'ils minimisent et méprisent les préceptes divins, s'ils transgressent l'un de ses plus petits commandements et enseignent aux gens à faire de même, ils ne pourront jouir de l'estime du ciel, et nous pouvons être certains que leurs prétentions sont sans fondement. La prétention d'être sans péché est en elle-même la preuve que celui qui en est rempli est loin d'être saint. C'est parce qu'il n'a aucune véritable conception de la pureté et de la sainteté infinie de Dieu, ni de ce qu'il faut devenir pour être en harmonie avec sa personne, ni la moindre idée de la perfection et de la suprême beauté de Jésus, ni de la nature pernicieuse du péché, que cet homme peut se considérer comme saint. Plus grande est la distance qui le sépare du Christ, plus sa perception du caractère et des exigences de Dieu est inadéquate, et plus il se croira juste. La sanctification présentée dans les Écritures englobe l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Paul priait en ces termes pour les chrétiens de Thessalonique. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il écrivait aussi aux croyants de Rome. « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. » À l'époque de l'ancien Israël, on examinait soigneusement toute offrande apportée en sacrifice à Dieu. si on découvrait quelque défaut chez l'animal présenté, celui-ci était refusé. Car Dieu avait ordonné que les offrandes soient sans tache. De même, les chrétiens sont invités à présenter leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Pour ce faire, ils ont le devoir de conserver toutes leurs facultés dans le meilleur état possible. Toute pratique tendant à affaiblir la force physique ou mentale disqualifie l'homme pour le service de son Créateur. Dieu agréera-t-il une offrande inférieure à la meilleure de nous-mêmes ? Le Christ a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Ceux qui aiment vraiment Dieu de tout leur cœur désireront lui offrir le meilleur service possible, et ils chercheront constamment à soumettre chacune de leurs facultés aux lois qui promeuvent leur capacité à faire sa volonté. Ils ne dévaloriseront pas ou ne souilleront pas, en cédant à leurs appétits ou à leurs passions, l'offrande qu'ils présentent à leur Père céleste. Pierre nous dit « Je vous encourage à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Toute indulgence coupable tend à endormir les facultés et à émousser les perceptions mentales et spirituelles, de sorte que la parole ou l'Esprit de Dieu ne peuvent faire qu'une faible impression sur le cœur. » Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. » Parmi les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, il classe la maîtrise de soi, dans d'autres versions bibliques, la tempérance. Malgré ces déclarations inspirées, combien de chrétiens de profession affaiblissent leurs facultés dans la recherche du gain ou dans l'adoration de la mode ? Combien avilissent leur humanité, qui porte l'image de Dieu, par la gloutonnerie, l'usage du vin ou les plaisirs défendus ? Et l'Église, au lieu de réprimer ces maux, les encourage trop souvent en faisant appel à la convoitise, à l'amour du gain ou du plaisir, afin de remplir ses caisses que le peu d'amour pour le Christ ne peut approvisionner. Si Jésus devait entrer dans les églises d'aujourd'hui et contempler les festivités et le commerce profane qu'on y pratique sous le manteau de la religion, ne chasserait-il pas ces profanateurs comme il a banni autrefois les changeurs du temple ? L'apôtre Jacques déclare que la sagesse d'en haut est d'abord pure. S'il avait rencontré ceux qui prononcent le précieux nom de Jésus avec des lèvres souillées par le tabac, ceux dont l'haleine et la personne sont contaminées par sa répugnante odeur et qui, en polluant l'air du ciel, forcent tous ceux qui les entourent à inhaler ce poison, si cet apôtre avait rencontré une pratique aussi opposée à la pureté de l'Évangile, ne l'aurait-il pas dénoncé comme étant terrestre, animal, démoniaque ? Des esclaves du tabac, prétendant avoir reçu la bénédiction d'une sanctification totale, parlent de leur espérance du ciel. Mais la parole de Dieu déclare clairement qu'il n'y entrera jamais dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Celui dont le corps est le sanctuaire du Saint-Esprit ne se laissera pas asservir par une habitude pernicieuse. Ses facultés appartiennent au Christ, qu'il a racheté au prix de son sang. Ses biens sont la propriété du Seigneur. Comment pourrait-il être considéré comme innocent s'il dilapide ce capital qui lui a été confié ? Des chrétiens de profession dépensent chaque année d'énormes sommes pour des plaisirs inutiles et dangereux, tandis que des âmes périssent sans la parole de vie. Ils dérobent à Dieu les dîmes et les offrandes qui lui sont dues tout en consommant sur l'autel de leur convoitise destructrice plus qu'ils ne donnent pour soulager les pauvres ou soutenir la cause de l'Évangile. Si tous ceux qui proclament être disciples du Christ étaient vraiment sanctifiés, ils apporteraient leur participation au trésor du Seigneur au lieu de les dépenser en divertissements vains et souvent nocifs. Ainsi, cela donnerait l'exemple de la tempérance, de l'abnégation et du sacrifice. Ils seraient la lumière du monde. Le monde s'adonne à la recherche des plaisirs. Le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources dominent les masses populaires. Mais les disciples du Christ ont une vocation plus sainte. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. » À la lumière de la parole de Dieu, on peut affirmer que la sanctification ne peut être authentique si elle ne produit pas cette entière renonciation aux ambitions et aux plaisirs coupables du monde. À ceux qui remplissent ces conditions, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. » La promesse de Dieu est « Je vous accueillerai, Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est le privilège et le devoir de chaque chrétien d'acquérir une expérience riche et abondante dans les choses de Dieu. Jésus nous dit « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le sentier des justes est comme la clarté de la lumière, qui va croissant jusqu'en plein jour. Chaque pas fait par la foi et dans l'obéissance rapproche l'âme de la lumière du monde, dans laquelle il n'y a pas de ténèbres. Les vifs rayons du soleil de la justice brillent sur les serviteurs de Dieu, qui doivent les refléter. De même que les étoiles nous apprennent qu'il y a dans le ciel une grande lumière dont elles réfléchissent la gloire, de même les chrétiens doivent rendre évidente l'existence, sur le trône de l'univers, d'un Dieu dont le caractère est digne de louange et d'imitation. On remarquera, chez ceux qui sont ses témoins, les grâces de son esprit, la pureté et la sainteté de son caractère. Paul, dans son épître aux Colossiens, décrit ainsi les riches bénédictions accordées aux enfants de Dieu. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Il mentionne aussi son désir que les frères d'Éphèse puissent comprendre la grandeur du privilège d'être chrétien. Il leur décrit, de la manière la plus complète possible, la grande puissance et la merveilleuse connaissance qu'ils pourraient acquérir en tant que fils et filles du Très-Haut. Ils avaient le privilège d'être rendus forts et puissants par son esprit, au profit de l'homme intérieur, d'être enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. Mais la prière de l'apôtre atteint son point culminant lorsqu'il demande « Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Là sont révélées les hauteurs que nous pouvons atteindre par la foi dans les promesses de notre Père Céleste lorsque nous répondons à ses exigences. Par les mérites du Christ, nous avons accès au trône de la Toute-Puissance. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Le Père a donné sans mesure de son esprit à son Fils, et nous pouvons aussi participer à sa plénitude. Jésus a dit « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. » Bien que la vie du chrétien doive être caractérisée par l'humilité, elle ne doit pas être marquée par la tristesse et la dépréciation de soi-même. C'est le privilège de chacun de vivre de telle sorte que Dieu puisse l'approuver et le bénir. Ce n'est pas la volonté de notre Père Céleste que nous soyons toujours sous le coup de la condamnation et dans les ténèbres. Ce n'est pas une preuve de véritable humilité que de marcher tête baissée et remplie de nous-mêmes. Nous pouvons aller à Jésus et être purifiés, puis nous tenir devant la loi sans honte ni remords. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par Jésus, les fils d'Adam déchus deviennent fils de Dieu. Celui qui consacre, ou dans d'autres versions, sanctifie, et ceux qui sont consacrés, ou sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. La vie chrétienne doit être une vie de foi, de victoire et de joie en Dieu. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Néhémie, un serviteur de Dieu, disait avec justesse « La joie du Seigneur est votre force ». Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tels sont les fruits de la conversion et de la sanctification biblique. Et c'est parce que le monde chrétien considère avec tant d'indifférence les grands principes de la justice exposés dans la loi de Dieu qu'on rencontre si rarement ces fruits. C'est pourquoi on voit si peu se manifester l'œuvre profonde et durable de l'Esprit de Dieu qui avait caractérisé les réveils d'autrefois. C'est en contemplant que nous sommes transformés. Lorsque les préceptes sacrés par lesquels Dieu a révélé aux hommes la perfection et la sainteté de son caractère sont négligés, et lorsque l'esprit du peuple est attiré vers les enseignements et théories des hommes, comment s'étonner qu'il s'ensuive un déclin de la piété vivante dans l'Église ? Le Seigneur dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce n'est que dans la mesure où l'on rendra à la loi de Dieu sa place légitime, qu'on assistera à un réveil de la foi et de la piété primitive parmi ceux qui professent être son peuple. Ainsi parle le Seigneur. Placez-vous sur les chemins et regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Où donc est le bon chemin ? Suivez-le et vous trouverez la tranquillité.